Les chroniques financières sur CFM Rodez, c'est toutes les semaines à cette heure-ci avec Steve Bonneau. Salut Steve.
Salut David.
Steve, on le rappelle, conseiller en investissement en patrimoine.
C'est ça.
À ICA Finance dans le centre-ville de Rodez.
Exact.
Alors cette semaine, le thème, le sujet de l'émission, alors a priori comme ça, il peut peut-être faire un peu peur, il a l'air un peu compliqué, mais tu vas éclaircir tout ça. Tu as eu envie de nous parler de la différence entre conseil financier et gestion discrétionnaire.
C'est le
côté gestion discrétionnaire. Qui, gestion discrète, gestion fait ce qu'on veut, ça, ça veut dire quoi?
Mais tu rigoles, mais c'est un petit peu ça quelque part.
Ah oui.
Alors la gestion discrétionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un client donne un mandat de gestion à quelqu'un pour gérer son argent à sa place. Et donc, en fait, dans le mandat de gestion, on transmet le pouvoir de prendre la décision sur quel instrument acheter, sur quel instrument vendre et comment structurer le portefeuille en fonction d'un certain nombre de critères que le client va communiquer à son gérant.
D'accord.
C'est-à-dire, on va dire, voilà, moi, donc, je vais placer 100 000 euros aujourd'hui. J'ai un horizon d'investissement de 15 ans. Mmh. Je veux viser du 3, du 4 ou du 5 % par an. Je veux investir dans tel secteur, je veux pas investir dans tel autre. Donc, vous vous débrouillez. Voilà si les paramètres et vous gérez en fonction de ces paramètres. Moi, je ne veux prendre aucune décision.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'en gros, on te donne l'argent avec des conditions de départ. Et après, derrière, tu fais ce que tu veux.
Exactement.
Pour aboutir au résultat que je t'ai demandé.
Le gérant a pouvoir de prendre décision.
D'accord.
Et ça, c'est très important. Mmh. Parce que c'est une différence fondamentale avec le conseil en investissement financier.
Mmh.
Et souvent, quand on parle de conseil en investissement financier, quand les gens viennent voir donc, le conseiller, hein, ils viennent souvent avec l'idée que le conseiller va leur dire, voilà, vous devez acheter ce titre, ça va monter, ça va baisser, faites attention. Donc, ils ont un peu cette vision du conseiller en investissement financier comme étant la personne qui va lire la boule de cristal. Or, ce n'est pas du tout ça.
Oui, on l'a vu dans les précédentes émissions.
Ouais, ça, si vous voulez, et moi j'ai eu souvent le cas aussi de clients qui venaient me dire, donc moi j'y connais rien, donc vous faites
ce que vous voulez
et puis on se reparle. Sauf que ça, ça ressemble davantage à de la gestion discrétionnaire, parce que quelque part, donc, le client a dans l'intention de donner une sorte de mandat implicite.
Ouais.
Vous faites ce que vous voulez.
Ouais.
Mais moi, je suis conseiller. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que lorsqu'on conseille, il faut que la personne qui reçoive le conseil ait un minimum en fait, de connaissances ou d'expérience financière. Parce que c'est elle qui prend la décision.
Voilà. Elle a surtout envie de prendre une décision.
Voilà.
Parce qu'à la limite, personne n'y comprend rien, n'a rien au bout du bout de tout. Donc même en y connaissant un peu, ça ne veut rien dire finalement.
Non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment, c'est en fait cette capacité à prendre la décision qui définit vraiment la différence entre le conseil et la gestion discrétionnaire. Donc le client qui garde la main sur son portefeuille, in fine, dont la décision d'investissement lui appartient, il vient chercher un conseil qui est forcément ponctuel.
D'accord.
Parce que c'est lui qui va gérer son portefeuille, in fine. Mais il a besoin ponctuellement de savoir si tel ou tel produit est compatible, on dit en adéquation avec son profil et puis avec sa capacité à supporter du risque.
D'accord, il vient de voir, il a des sous, il dit tiens, j'achèterais bien un nouvel appartement, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai déjà 8, mais bon, un 9e, c'est un bon placement, qu'est-ce que moi je trouve
Steve, ça pourrait être ça, mais alors effectivement ça, tout ce qui est immobilier en dur, ça rentre plus, si tu veux, dans une sorte de gestion patrimoniale.
Mm-hmm.
Donc là, on sort un petit peu du domaine des marchés financiers.
Mm-hmm.
Mais c'est l'idée, effectivement, c'est de se dire, alors moi, j'ai plusieurs appartements en location, j'ai un portefeuille d'actifs financiers. Sur ce portefeuille, je veux aller investir ou me renforcer dans les matières premières. Je considère ce produit, qu'est-ce que tu en penses?
Et pourquoi toi, à la limite, à ICA Finance, tu ne fais pas les deux, selon ce que veut le client? Parce que ça change. Enfin, ça change tout, mais toi, pour toi, dans ton métier, au final,
on fait les deux. Ouais. Mais sauf que là, quand même, il faut des ressources, parce que c'est pas la même approche quand même.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que dans la partie patrimoniale, il va y avoir beaucoup de fiscalité, de juridique.
Mm-hmm.
dans la partie finance, il va y avoir beaucoup plus en fait de suivi de marché,
l'économie générale.
Et tu te rappelles, on avait parlé en fait de ces 6 thèmes d'investissement. Donc c'est plus quelque chose en fait. Ce sont des activités complémentaires. Mmh. Mais tu as raison. Dans l'absolu, en fait, on devrait faire une analyse patrimoniale. C'est donc global. Mmh. C'est tout le patrimoine du client, son patrimoine immobilier, son patrimoine financier. Et donc ça, mais dans les faits, il faut quand même qu'on puisse distinguer un petit peu les deux parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes décisions qu'on va prendre.
Ouais, alors justement, ces décisions qui sont prises dans les deux cas, oui, dans le cas de la gestion discrétionnaire, il y a plus de... Enfin, j'en sais rien, hein, mais il y a une responsabilité juridique, des choses comme ça, non ? C'est alors, la grosse différence ?
Oui, alors c'est-à-dire que la grosse différence, en fait, elle est à deux niveaux. Qui a la décision ?
Ouais.
Et deuxième niveau, en fait... qui donne les instructions quelque part. C'est-à-dire que dans le cas de la gestion discrétionnaire, donc effectivement, la décision, elle est avec le gérant. Sauf que le gérant, il ne fait pas non plus complètement ce qu'il veut. Mmh. On lui donne un cadre dans lequel évoluer. Mmh. Donc, on va passer un certain nombre de paramètres au gérant. Dans le cadre du conseil, en fait, pourquoi je disais c'est que c'était plus ponctuel avant ? Parce que en fait, le rôle du conseiller... beaucoup plus que celui du gérant. Le rôle du conseiller, c'est de profiler son client. Mmh. On en avait parlé un petit peu.
Oui, bien sûr.
Mais c'est ça la nature du conseil financier.
D'accord.
C'est vraiment ça. Et de se dire, voilà, une fois que j'ai mon profil de client, je peux lui dire que ce produit est en adéquation avec son profil.
Mmh. Alors que dans la gestion, à la limite, le profil, j'exagère, hein, le profil, on s'en fout puisque c'est la personne qui décide.
Voilà, c'est un petit peu ça.
Ouais.
C'est-à-dire que le profil, c'est important.
Ouais, mais moins.
Mais... ce que va la matière première du gérant, c'est vraiment les paramètres de gestion.
Et est-ce que dans la gestion discrétionnaire, du coup, le gérant, vu qu'il est maître, même
c'est
si ce n'est pas son argent, il tente des trucs que jamais un particulier viendrait voir un conseiller pour aller sur tel ou tel terrain.
C'est intéressant, en fait. Ça a été à la source d'un certain nombre de problèmes avec certains types de fonds, surtout des fonds qui ont un caractère un petit peu plus spéculatif, dont la structure de rémunération était basée sur la performance du gérant.
Ouais.
Et donc, ce qui se passait, c'est que le gérant avait tendance à prendre beaucoup plus de risques pour essayer de maximiser sa performance et donc sa rémunération. Mmh. Et c'est au détriment du client, évidemment.
Quand ça tourne mal.
Voilà, quand ça tourne mal, ouais. Mmh. Donc, on a eu des cas comme ça, en fait, où il y a eu... Alors, c'était surtout dans l'environnement des hedge funds. Mmh. C'est pour ça qu'ils ont parfois cette réputation un petit peu sulfureuse, alors qu'à la base, c'est plutôt des produits défensifs, pour la plupart. Mais comme il y a eu ces problématiques de rémunération... ça a créé un petit peu, ça a entaché un petit peu l'image.
En ce qui concerne, quand on a de l'épargne, de l'argent à placer, à investir, le choix entre faire appel à un conseiller financier ou à la gestion discrétionnaire, c'est juste la culture qu'on a du milieu ?
Je pense que c'est un élément déterminant, effectivement. Et puis aussi, combien de temps on veut consacrer personnellement à son portefeuille. Parce que si on n'a vraiment pas le temps, pour des raisons X, Y, Z, il vaut peut-être mieux aller en gestion discrétionnaire. Parce que par définition, le conseiller financier ne va pas prendre la décision. Il va toujours revenir vers le client pour valider les choix. Je donne un exemple concret. Par exemple, lorsqu'on travaille avec des contrats d'assurance vie et qu'on veut faire soit une mise en place de portefeuille, soit des arbitrages au sein des portefeuilles, il faut toujours envoyer la validation au client et on est tributaire en fait de sa signature. Et donc ça, potentiellement... c'est pas que c'est un problème en soi.
Non.
Mais je reviens deux minutes, en fait, sur la rémunération du conseil. Et là, je sais pas si on en avait parlé dans les émissions précédentes, mais je fais la différence entre le conseil qu'on donne de nature indépendante et le conseil que l'on donne de nature non indépendante.
C'est-à-dire ?
Alors, nous, on travaille de manière non indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la rémunération du conseil, elle est obtenue par des rétrocessions de commissions des fonds dans lesquels le client investit.
D'accord.
Alors, très simple, je parle au client, je dis voilà, étant donné votre profil, vous pouvez investir dans ce fonds, ce fonds, ce fonds, ce fonds. Ça, c'est mon conseil. Le client décide d'acheter les fonds, donc de suivre le conseil, donc d'agir sur le conseil. Une fois que l'opération est faite, le fonds va me rétrocéder une partie des commissions de gestion.
D'accord.
Donc, c'est comme ça que je suis payé.
Ah, c'est le fonds qui paye, en fait.
C'est le fonds qui paye. Ah,
c'est
et c'est pour ça que c'est non indépendant.
Ouais,
parce que on pourrait croire que je vais choisir tel fonds parce qu'il
paye mieux. Ouais.
Exactement.
Ah ouais, c'est vrai qu'on peut croire ça.
On pourrait croire ça.
Mais alors, comment tu fais pour qu'on n'y croit pas ? On ne croit pas qu'il y ait des trucs comme ça ?
Non, bah, c'est écrit noir sur blanc, d'accord, en fait, dans les documents qu'on fait signer au client. D'accord, donc, on a une lettre de mission qui explique les frais qu'on va prendre et comment on est payé.
D'accord.
Voilà. Deuxième option, c'est la solution indépendante, où là, on va facturer des honoraires de conseil au client. Mmh. Et ce sont surtout des honoraires pour le travail de profilage, en fait, de détermination de son profil d'investisseur, etc., etc. Et ça, c'est facturé séparément. De sorte que si un fonds nous rétrocède quelque chose, on est tenu de le rétrocéder à notre tour au client.
D'accord.
Ouais. Voilà.
Okay. L'importance de son épargne ou de ses possibilités d'investissement. On va le retrouver, il peut influencer le choix de la gestion discrétionnaire ou du conseil financier. Bon, je me dis, on est multimilliardaire. Tu vois, ouais. Vraiment, c'est même pas pour la retraite, c'est juste comme ça pour pas que ça se perde, quoi. Bon, là, j'aurais envie de dire, bon, gestion discrétionnaire, Steve, tu fais ce que tu veux, je reviens l'année prochaine, tu me rends mes 4%.
Alors oui.
Non, il ouais. Y a pas de. Selon ce qu'on épargne, on en est plus porté vers tel ou tel. Non,
je pense en fait que, encore une fois, ça dépend du temps qu'on veut y consacrer et ça dépend aussi parfois du profil psychologique.
Oui.
Parce que moi, je me souviens, j'ai eu beaucoup de clients en fait qui aimaient beaucoup. Alors là, on n'est pas vraiment. Alors là encore, c'est. Moi, j'appelle pas ça du conseil parce que c'est plus de la spéculation. Mm-hmm. C'est plus un travail d'analyste à savoir. Et alors, ça, c'est intéressant aussi de faire la distinction entre le conseil proprement dit et le travail d'analyste. Parce que le travail d'analyste, c'est vraiment quelque chose qui est, je crois qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois, beaucoup plus générique. Mmh. Il n'y a pas cet élément de personnalisation qu'il peut y avoir dans le conseil. Mmh. Et du coup, ça peut être, voilà, je regarde par exemple ce qui se passe sur les marchés et je dis au client, bah, tiens, voilà, là c'est un bon point d'entrée, positionnez-vous. Prenez une position sur tel titre, telle matière première, telle devise. Ce n'est pas un conseil. Parce que je lui dis pas.
Ah bah si, ça ressemble un peu.
Eh oui, mais voilà, c'est justement
si, ça ressemble
là,
à un conseil quand même.
C'est justement ça qui est intéressant. Ouais. Ça devient un conseil à partir du moment où je lui dis, voilà, étant donné votre profil, monsieur le client,
ouais,
investir sur des devises ou sur des matières premières avec tel ou tel instrument, et je précise de quel instrument je parle. Là, ça devient un conseil parce que je réalise une adéquation entre son profil et un instrument particulier.
On est sur un cas particulier.
Oui. Si je dis, bah, écoutez, aujourd'hui,
en ce moment,
voilà, le marché semblerait que ça a bien baissé, il y a des points d'entrée intéressants, pourquoi est-ce que vous ne regarderez pas ça ? C'est beaucoup moins un conseil.
Ouais, c'est plus de l'avis du pas du bistrot, j'exagère, mais on est plus dans. Ouais, c'est pas.
On est dans un travail d'analyste.
D'accord. Ah oui,
on analyse en fait les marchés, ouais, on analyse des tendances, des secteurs, des opportunités, et on dit, voilà, on trouve que ça, c'est intéressant.
Ok.
Mais ça s'arrête là.
Sans tenir compte, donc c'est après la phase de conseil entre en jeu quand on met ça en adéquation avec une personne particulière en face.
Exactement. Alors ça, c'est un point très intéressant aussi parce que bien souvent, se pose la question de la rémunération du travail d'analyste.
Mmh.
Parce que ça a un impact important sur la qualité du conseil,
oui, oui,
mais pas sur la nature du conseil. C'est-à-dire que la nature du conseil ne change pas. C'est toujours matcher en fait un profil avec un produit particulier.
Mmh, mmh.
Sauf que là, dans le choix du produit, on est un petit peu plus précis parce qu'on dit, tiens, je préfère lui montrer un produit dont je pense en fait qu'il est investi sur un secteur porteur plutôt qu'un produit un petit peu plus générique qui a les mêmes caractéristiques et qui va matcher avec son profil.
Mm-hmm.
Par exemple, je dis, vous pouvez investir sur un fonds qui va être spécialisé dans la défense ou plutôt action, donc un fonds action spécialisé dans la défense. Alors que je pourrais très bien lui dire, vous pouvez vous positionner sur un fonds action, Europe, etc., etc. Donc, c'est le même produit, hein, sauf que celui que dans la défense, il est un petit peu plus ciblé.
D'accord. Est-ce que le conseil, c'est dans les deux sens. Là, c'est toi qui leur propose directement tel ou tel produit, type d'investissement. Mais la personne, moi, je regarde la télé. Bon, des fois, tu vois des pubs pour des placements à la télé de tout, hein, le Bitcoin, acheter tout ceci, acheter cela, bon placement, des maisons de retraite, tout et tout. Il y a des gens qui arrivent avec, tiens, j'envisage d'investir là-dedans. Et toi, ton conseil, ça peut être de, attendez, je vais regarder ce que c'est ce truc-là.
Exactement.
Hein?
Mais ça arrive tout le temps.
Ouais.
Parce que là encore, on dit alors, et justement, c'est vraiment intéressant de voir comment ça se passe. Parce qu'on a des clients, par exemple, qui ont été investis il y a quelques années dans des produits qui ont été proposés par des établissements bancaires, par exemple, Donc, et ils viennent nous voir en disant « Ah ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces fonds, etc. » Deux problèmes pour moi. Un, a priori, je ne connais pas le profil du client. Et donc, je ne peux pas donner mon conseil.
Ouais, ouais.
Il faut déjà que je puisse le profiler.
D'accord. Bon, enfin, une fois que tu le connais.
Alors, une fois que je le connais, je pourrais dire bah, « Tiens, ces fonds-là, pourquoi pas ? Ils sont intéressants. En tout cas, ils sont en adéquation avec votre profil. Donc, je n'ai pas d'objection. » Sauf que si je fais mon conseil de nature non indépendante, je ne suis plus payé. Je ne suis plus rémunéré parce que je n'ai aucune relation avec les fonds.
Ah ouais !
Tu vois le problème ?
Ah oui, d'accord. Donc, c'est un conseil gratuit.
C'est un conseil gratuit.
Ok, oui, donc c'est pas ce que tu préfères.
Eh ben non. Et non.
Eh ben non.
Non, parce que moi, il faut que je me concentre. Parce que voilà, c'est une entreprise.
Bien sûr, bien sûr.
Il faut
oui.
se concentrer sur ce qui permet de faire vivre et développer l'entreprise.
Oui, bien sûr, ok.
Mais donc, c'est très subtil, en fait, parce qu'il y a vraiment la nature du conseil et comment on délivre ce conseil a vraiment beaucoup d'importance.
Ouais.
Et puis alors, il y a les gens qui disent, voilà, moi, je n'y connais rien, tu fais comme tu le sens, voilà, etc. Et là, problème, parce que je ne peux pas le faire, parce que la gestion discrétionnaire, c'est un autre type d'agrément que le conseil d'investissement financier.
Oh, super réglementé.
Donc, je suis bien obligé de dire, mais ça, je ne peux pas le faire. Mmh. Il faut que ce soit vous qui preniez la décision, in fine.
D'accord. Moi, je même si c'est formel.
Ah, mais oui.
En fait, c'est toi qui lui as tout suggéré, mais c'est la décision finale.
La décision finale.
Le visa, le tampon, paf.
Exactement. C'est le client qui doit appuyer sur le bouton. Alors que dans le cadre de la gestion discrétionnaire, c'est moi, en tant que gérant, je n'ai plus besoin de l'accord du client, je peux acheter, vendre ce que je veux, quand je veux, évidemment dans le cadre des paramètres qui m'ont été transmis.
Et est-ce que dans le cas de la gestion discrétionnaire, au cas où ça ne se passe pas aussi bien que prévu, le gestionnaire, il a une responsabilité, il doit payer quand même ce qu'il avait promis ou pas ?
Alors non.
Puisqu'il a fait ce qu'il vous... Ouais. On pourrait dire, je vous ai laissé faire ce que vous voulez, moi je vous ai mis 5% à la fin,
on
n'a
pas d'obligation de résultat.
Ah.
Personne n'est tenu à une obligation de résultat.
D'accord.
On est plus tenu à une obligation de moyens.
Mm-hmm.
Dans le cas de la gestion discrétionnaire, le problème, la responsabilité du gérant peut être engagée s'il travaille en dehors des paramètres qui lui ont été donnés.
Si, oui, là, oui. S'il fait plus qu'on ce que lui a demandé, il fait des faux signes. Oui,
exactement. Et dans le cadre du conseiller en investissement financier, sa responsabilité peut être engagée, par exemple, pour défaut de conseil, s'il propose des produits qui ne sont pas du tout en adéquation avec le projet du client ou son profil. Donc là, problème.
Ça arrive souvent le genre de litige comme ça dans ce domaine.
Non, c'est relativement contrôlé. Ouais. Et là, vraiment, maintenant, il y a.
Est-ce que vous bordez contre la mauvaise foi éventuellement d'en face, dans les contrats ?
Ah, ben de toute façon, d'expérience, c'est comme ça qu'il faut travailler.
Bah ouais.
C'est-à-dire que c'est un métier un petit peu ingrat quelque part, parce que si ça marche bien, on va vous dire c'est ton boulot.
Ouais.
Si ça marche pas,
c'est ta faute.
C'est ta faute.
Ouais.
Et comme et une fois qu'on est investi, on ne maîtrise plus ce qui se passe sur les marchés, c'est là en fait où on touche à la limite du conseil.
Ouais.
Le conseil, c'est vraiment quelque chose qui est censé être maîtrisé et donc ça ne peut porter que sur des paramètres que l'on maîtrise, à savoir l'analyse du profil du client et l'adéquation avec les produits.
Mmh.
Et une fois que c'est investi sur les marchés,
il n'y a plus de conseil,
il n'y a plus rien du tout.
Ouais.
Voilà.
Bien sûr. Bon, importante cette différence entre la gestion discrétionnaire et le conseil financier. Conseil financier, c'est ta partie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour cet épisode, Steve ? On a encore un peu de temps, si tu as envie.
Oui, non, on revenait un petit peu. Alors, ce qui est important pour moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est aussi cette différence fondamentale entre le conseil et le travail d'analyste.
Ouais.
Parce que ce que je voulais dire en fait au départ, c'est que bien souvent, les clients qui viennent nous voir, ils sont plutôt inversés. C'est-à-dire que pour eux, le conseil, c'est le boulot d'analyste, à savoir ce qui se passe sur les marchés, qu'est-ce qu'on fait, etc.
Oui.
Eh ben non. Et c'est là que c'est vraiment très contre-intuitif. Donc il faut, et moi je mets toujours un point d'honneur à toujours expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire.
Ouais, donc toi quand quelqu'un arrive, grosso modo tu lui dis, écoutez, moi mon boulot dans un premier temps c'est pas forcément de regarder les marchés, de tout savoir par cœur et de deviner l'avenir. Mon boulot numéro un c'est vous connaître.
Exactement. C'est ça. Mais c'est la base, c'est la base du conseil.
Bien sûr.
Aux clients, pour vous, désolé, mais votre profil ne vous permet pas, en fait, de prendre des instruments trop risqués. C'est pas que vous n'allez pas gagner d'argent. C'est que le fait, ça peut créer des situations de stress, et c'est pas le but de la manœuvre.
C'est pas le but de se rendre malade.
Moi, j'ai eu dans ma carrière beaucoup de clients, en fait, qui se prétendaient capables de prendre des positions pas forcément extrêmement spéculatives, mais sur des marchés d'actions.
Ouais.
Et in fine, quand ça se retourne contre eux, ils appellent toutes les deux minutes.
Bah oui.
Parce que être, alors là, on est vraiment dans l'univers du trading, ce qui veut dire que dans cet univers-là, si vous prenez des positions comme ça, il faut être capable de se couper la main plutôt que le bras. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire.
Tout, parce qu'on se couper une main, faut quand même y aller. Hein.
Ok.
Ouais. Bon, on a bien compris. Merci beaucoup, Steve Bonneau, pour ce nouveau numéro, les chroniques financières sur CFM Rodez. On se voit la semaine prochaine.
Ben oui.
Bon, tu sais de quoi on va parler ou on va voir selon l'actu?
Je vais voir selon l'actu. C'est un petit peu comme le marché du jour.
Ben oui. Les marchés, c'est pas terrible. Hein. Là, vite fait. Hein.
Ah non, c'est compliqué.
C'est compliqué. Bon, allez, bonne semaine quand même. Merci, Steve.
Merci, David.